Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Brexit. Les liens d'amitié, finalement, ça s'improvise. Hein. Tout ça pour ça, quoi, qu'ils viennent pas me prendre la tête. Hein. Tout ça pour ça.
Et voilà, tout ça pour ça, la musique, la bande originale du film d'ailleurs, très bon film de Claude Lelouch, tout ça pour ça, European Voice numéro 31. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Et tout ça pour ça, c'est un peu le titre emblématique de ce podcast, le titre emblématique du Brexit jusqu'à présent. Pas mal de développement, pas mal de rumeurs, pas mal de buzz et à la fin, tout ça pour ça.
Les plus pessimistes, Christophe, diront tout ça pour ça. Les plus optimistes diront enfin, at last, on est arrivé avant la date fatidique, avant le 31 octobre, à obtenir un accord de retrait.
Un autre accord de retrait,
mais accord de retrait que Boris Johnson va devoir soumettre au Parlement britannique samedi.
Alors, on ne va pas tout détailler parce que c'est quand même assez compliqué. On va essayer juste peut-être de se concentrer sur le deal que Theresa May avait eu. Le deal, donc ce fameux deal que Theresa May a essayé de faire passer trois fois devant la Chambre des communes britannique et ça a été rejeté trois fois. Et les différences avec le fameux deal de Boris Johnson, parce qu'en fait, tout est à peu près pareil. Il n'y a pas grand changement entre ces deux deals quand même, quand on réfléchit bien.
Le texte proposé par Theresa May, l'accord de retrait, lui avait été rejeté donc trois fois par le Parlement britannique, chose rigolote, notamment aussi par Boris Johnson. Mmh. Et là, il se trouve, et vous l'avez dit Christophe, que le texte en fait est sensiblement similaire sur un nombre important de points. On arrive à peu près à la même chose sur la situation des citoyens de l'Union européenne qui se trouveront encore en Grande-Bretagne après le Brexit. On est à peu près aussi aux mêmes conclusions quant à la contribution qui sera résiduelle vraiment dans le budget de l'Union européenne par la Grande-Bretagne. En fait, sur tous ces points-là, il n'y a pas de changement. J'allais vous dire, il y a deux aspects bloquants qui semblent avoir été levés, mais encore une fois, sous confirmation du vote et de l'accord du Parlement britannique. D'abord, c'est la situation, c'est ce fameux backstop, filet de sécurité. La situation, le statut spécifique de l'Irlande du Nord et de l'île Irlande-Irlande du Nord en vue de ce Brexit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, si vous voulez, la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et notamment les pouvoirs accordés, la jauge de pouvoir accordée à l'Irlande du Nord pour décider, après 2020, après la période de transition, ce que peut devenir la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Alors avant de parler de la réception donc par les différents partis en question, si on s'accorde simplement deux minutes sur le backstop, ça a été le mot à la bouche de tout le monde depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, sur la solution nord-irlandaise. Aujourd'hui, on sait quoi la solution de Boris Johnson ? Parce que c'est un peu un mishmash de deux solutions, mais on n'arrive pas vraiment à une vraie solution complète. C'est compliqué en fait, en tout cas, ce qui va se passer. Ce qui est théoriquement dans les livres, si jamais ce deal est accepté.
Pour moi, Christophe, c'est véritablement la résultante d'une compromission, d'une négociation où effectivement, personne n'est entièrement satisfait.
Là, on a coupé les poires en deux.
Il faut le rappeler pour nos auditeurs, ce que le Royaume-Uni voulait éviter, deux choses avec le backstop, et c'est pour ça qu'il y avait un problème avec le backstop. Il voulait éviter de mettre en péril les accords entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, le Good Friday Agreement, et voulait aussi éviter d'être dépendant des règles commerciales, douanières, tarifaires de l'Union européenne une fois qu'ils quitteront l'Union européenne, puisque s'ils quittent l'Union européenne, ce n'est pas pour après être dépendant des règles douanières, tarifaires, et surtout avoir les mains libres et la possibilité de négocier des accords de libre-échange, des accords bilatéraux avec d'autres pays. Ça, c'est ce que le Royaume-Uni voulait absolument éviter avec le backstop, la proposition de backstop actuelle. Ce que l'Union européenne, elle, voulait éviter, et Michel Barnier, le négociateur en chef en premier, c'était qu'il y ait une distorsion de concurrence et la possibilité, on en avait parlé dans une précédente émission, que des produits de moindre qualité qui ne répondent pas aux normes européennes puissent, par la porosité de cette frontière, rentrer dans l'Union européenne. Donc ça, c'est jusqu'à présent, c'est les raisons pour lesquelles on ne s'était pas mis d'accord sur ce backstop ou sur ce filet de sécurité. On en est arrivé où, Christophe ? On en est arrivé qu'en fait, maintenant, l'Irlande du Nord va former avec l'Union européenne une zone réglementaire. Mmh. Ça veut dire qu'il va y avoir une zone...
Une zone tempérée.
Exactement.
Entre les deux.
une zone tempérée. Et cette zone réglementaire sera alignée sur les normes européennes fixées dans le cadre du marché intérieur communautaire. Ça veut dire quoi concrètement pour la frontière Irlande-Irlande du Nord et pour les accords du Vendredi Saint ? Ça veut dire qu'on va déplacer en fait la zone de contrôle Irlande du Nord-Irlande à Irlande du
Grande-Bretagne,
Nord, ouais. Royaume-Uni. Grande-Bretagne, pardon. Donc ça veut dire qu'effectivement on ne recrée pas cette frontière Irlande-Irlande du Nord qui pourrait mettre en péril ces décennies de paix en Irlande.
Donc ça veut dire qu'au niveau, pour être clair, au niveau du Royaume-Uni, on accepte d'avoir une partie de son territoire, en l'occurrence l'Irlande du Nord, qui reste en partie sous contrôle, régimenté par l'Union européenne. On a fait cette concession, on ne met pas la frontière physique aux frontières physiques du pays, on déplace un peu cette frontière et on autorise l'Union européenne de gérer, en tout cas en partie, cette zone qui fait quand même partie du Royaume-Uni, mais qui est en dehors de l'Union européenne.
Tout à fait, on accepte ça, c'est la concession faite par Boris Johnson, mais à la concession faite par Boris Johnson, il y a une concession faite par l'Union européenne en réponse, c'est qu'il va y avoir des arrangements douaniers assez complexes et au cas par cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si des produits ne sont pas destinés à inonder le marché européen, dans ce cas-là, ils ne seront pas soumis à une taxe au niveau de la Grande-Bretagne. Par contre, si ces produits, après, sont destinés via l'Irlande du Nord, où on a déplacé la frontière, à après aller, par exemple, en Irlande, justement, transiter par l'Irlande, puis aller
en France, en Belgique,
N'importe quoi. Dans ce cas-là, des contrôles douaniers, tarifaires, des règles spécifiques s'appliquant à la TVA vont être mises en place. Donc ça, c'est la concession qui est faite par l'Union européenne. Vous voyez, donc c'est une vraie négociation, une vraie compromission de chaque côté.
Alors, on l'aura compris aussi, c'est compliqué. C'est très compliqué même à expliquer simplement comment ça peut exister. Alors, dans la vraie vie, j'allais dire, dans la réalité, le faire fonctionner, ça peut être tout en plus compliqué. D'ailleurs, les députés nord-irlandais du DUP... pas vraiment satisfait avec ça. Hein. Je pense que dès le début, on a servi un peu un thé un peu tiède, hein, quand même pour les députés nord-irlandais.
C'est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était ces députés qui, eux, avaient une position très arrêtée justement sur le backstop, hein, enfin, les premiers concernés. Mais ils ont tout de suite dit, et c'est là où on voit que rien n'est encore joué, qu'ils ne voteraient pas samedi en faveur de ce nouveau texte.
Alors, vous l'avez dit, samedi, le Parlement va siéger. Première fois depuis la guerre des Malouines que ce Parlement va siéger, donc depuis 1980, je crois.
Depuis 1982.
82, hein, je suis sans note, je fais juste de mémoire, mais 1982. Donc voilà, ça fait quand même un sacré moment, donc c'est un moment assez important. Mais est-ce que c'est un moment qui est à la hauteur des enjeux ? Parce que est-ce que réellement, Boris Johnson pense que ce deal va être signé samedi soir ?
L'Union européenne aimerait bien que ce deal soit signé, parce qu'il faut le préciser aussi pour nos auditeurs, toutes ces pérégrinations sur le Brexit, ça fait 3 ans en fait qu'elles sont en haut de l'agenda des réunions européennes, alors qu'il y a plein d'autres sujets brûlants sur la table. Et encore ce jeudi, en fait, alors qu'on a le budget 21-27, on a l'intervention turque en Syrie, on a les processus d'adhésion, en tout cas les pour et les contre quant au processus d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, tout ça c'était sur la table de ce Conseil européen de Bruxelles. Et encore une fois, ça a été un petit peu
mis de côté,
phagocyté, mangé par l'agenda du Brexit. Donc je pense que pour l'Union européenne, elle a véritablement envie de voir le Parlement britannique, et sans trop m'avancer, sans trop lire dans les boules de cristal l'Union européenne, je pense que si ça passe au Parlement britannique, ça passera aussi après, parce que ça doit quand même retourner au Parlement européen, mais ça sera approuvé par le Parlement européen. Le problème, Christophe, c'est véritablement le Parlement britannique. On l'a dit, hein, ça fait 3 fois que le texte est rejeté. Et si on fait une liste très sommaire, Jeremy Corbyn, Labour, ont déjà dit non, on ne votera pas. Les Lib Dems, pas satisfaits.
En plus, Jeremy Corbyn a appelé ce deal comme étant même pire que celui que Theresa May avait proposé. Donc ça veut dire que ça va être compliqué pour eux d'être convaincus de le voter.
Ah oui, ça va être compliqué. Donc Corbyn, non. Les Lib Dems, non. les Brexiteurs les plus durs ne voient de toute façon pas un deal et n'ont pas forcément envie d'avoir un deal en fait. Le DUP aussi, donc ça va être compliqué. Et puis on a toujours cette incertitude chez les conservateurs, mais donc ça va être effectivement très
compliqué. On a du mal à imaginer en fait, pour que ça passe, en gros, faut qu'il y ait une énorme migration du niveau du Labour pour pouvoir passer du côté conservateur, pour remplacer tous les non-votants ou les gens qui sont contre ce deal au niveau des conservateurs. On a du mal à imaginer qu'il y ait vraiment ce nombre de députés travaillistes qui, comme on dit en anglais, qui cross the floor, qui aille traverser l'hémicycle et qui aille se rallier à Boris Johnson. On a du mal à l'imaginer, ça. Hormis si Boris Johnson arrive à avoir une confirmation de l'Europe que c'est ça ou c'est rien, qu'il n'y aura pas un autre délai. Il y a cette question-là aussi, parce qu'il y a toujours cette question de rallonger la date fatidique du Brexit qui est toujours fixée au 31 octobre.
C'est une bonne hypothèse, Christophe, mais ça laisse en fait simplement une journée, vendredi, à Boris Johnson, parce que ce qui va se passer, c'est que si le Parlement britannique vote contre, oui, Boris Johnson peut réclamer un nouveau délai à l'Union européenne. Sauf que cet élément-là, si vous voulez, l'Union européenne a très peu d'intérêt de s'avancer dessus, parce que ça fausserait aussi le résultat du vote britannique. Donc on est un peu dans une espèce de serpent qui se mord la queue ou d'œuf et de poule, c'est-à-dire que Boris Johnson ne pourra pas négocier une potentielle suite avec l'Union européenne avant lui-même d'avoir essayé de convaincre son propre Parlement. L'argument est audible, mais ça va être très dur, parce que ça fausserait en fait ça fausserait les cartes en main des parlementaires britanniques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jean-Claude Juncker, dans sa déclaration, il joue encore sur cette corde sensible de « on a tout fait, nous, Europe, on regrette profondément le départ de l'Union européenne, du Royaume-Uni, vous resterez...
Des amis, outstretched,
c'est le mot qu'il utilise... souvent, mais maintenant, c'est véritablement au Parlement britannique. L'Europe n'a plus rien à voir d'une certaine façon maintenant que le deal a été accepté par les partis. C'est vraiment au Parlement britannique de se prononcer et c'est pas à l'Union européenne de faire des plans sur la comète en fonction de ce que dirait le Parlement britannique. Donc Boris Johnson n'aura pas cet élément-là de délai supplémentaire avant que le Parlement britannique ne se prononce. Et ce qui est encore envisageable, c'est que surtout il n'y ait pas de deal. C'est-à-dire que le Parlement britannique peut refuser de voter ce texte-là. Boris Johnson, lui, pour X raisons internes, refuse d'aller voir le Parlement européen et de dire « j'ai encore envie d'un délai ». Et dans ce cas-là, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre, c'est le no deal.
Donc les chances d'avoir un no deal au 1er novembre sont quand même très élevées, encore.
Malgré,
c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout le brouhaha médiatique qu'il y a eu autour du nouveau deal fait par Boris Johnson et l'Union Européenne, aujourd'hui, je pense que la probabilité d'avoir un no deal est encore plus forte qu'elle l'était la semaine dernière.
Je pense que là, la probabilité d'un no deal, elle est forte, effectivement. En tout cas, elle est au moins aussi forte que la probabilité du Parlement britannique de refuser le deal proposé par Boris Johnson.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment penser qu'il y aurait potentiellement un deuxième référendum, où ça, je pense qu'on peut juste tirer un trait dessus, il n'y aura pas un deuxième référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. En tout cas, pas tout de suite.
Je pense que c'est très lié aussi, Christophe, et on en avait parlé dans une précédente émission d'Europa Voice, c'est aussi très lié à la potentialité d'organisation d'élections anticipées en Grande-Bretagne. Par exemple, Jeremy Corbyn s'était tellement avancé sur l'idée d'un nouveau référendum que si pour X raisons le gouvernement de Boris Johnson saute et les travaillistes sont élus, il pourrait y avoir un référendum. Donc, je pense que la question du référendum, elle ne se posera pas avec les conservateurs, parce qu'il y a toujours cette optique de respecter, cette ligne politique, hein, de respecter le choix souverain du peuple britannique. Par contre, s'il y a des élections générales anticipées, que Boris Johnson, les conservateurs, perdent le pouvoir, que les travaillistes reviennent au pouvoir, c'est peut-être une porte de sortie. Mais alors, et c'est là, on l'avait aussi dit, et ça avait été dit dans une conférence ici à Melbourne ou à MIT, c'est le problème après, c'est recoller les morceaux, c'est les fractures.
L'après va être incroyable.
Ben oui, parce que s'il y a un deuxième référendum, qu'on magouille les chiffres, en tout cas qu'on arrive puisque le problème d'un référendum, et on l'a vu avec la Nouvelle-Calédonie, on l'a vu avec l'Écosse qui était l'inverse de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus dans la question que vous posez, dans la formulation de la question que vous posez, et surtout dans les options que vous donnez. C'est-à-dire que si vous choisissez A, ça veut dire ça, 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 ça. Si vous choisissez B, ça veut dire ça, 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 ça. Ce que les Écossais ont fait par rapport à un référendum d'indépendance qui avait été salué par beaucoup de partis politiques en Europe. Mais donc, il y aura toujours moyen de faire un deuxième référendum, de le tourner de façon à ce que les Britanniques en majorité ne veulent plus quitter l'Europe. Mais alors là, pour resolidifier la confiance du peuple britannique envers les politiques, envers leur gouvernement, envers les décideurs en général, bonne chance.
Ouais, absolument.
Et bonne chance à Jeremy Corbyn s'il organise ce deuxième référendum.
Vous l'avez mentionné juste deux secondes, l'Écosse, le cas de l'Écosse. Est-ce que tout ça, c'est pas mettre de l'huile un peu sur le feu de l'indépendance écossaise? Parce que le premier tweet directement par la première ministre écossaise, ça a été de dire, voilà, les faits sont là, l'Écosse doit partir si elle veut maintenir sa souveraineté.
Ah, c'est un précédent incroyable, le Brexit. J'allais dire, maintenant, on est plus tellement à jauger de la solution qui va être mise en œuvre, parce que le Brexit se fera. Je veux dire, à moins d'un retournement inimaginable, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Mais maintenant, c'est les conséquences de ça. C'est le précédent, c'est la jurisprudence que le cas Brexit va créer, pas seulement dans le fait que certains pays, certains États membres États vont vouloir revendiquer une indépendance, c'est aussi dans la mise en œuvre. C'est comment on va faire, on l'a vu. Enfin, c'est compliqué de négocier ça avec l'Union européenne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va assister à d'autres formes de négociation? Ce qui est assez intéressant, c'est aussi le terme qui est revenu ces derniers jours dans le débat, celui de Singapour sur Tamise. Parce qu'il est là aussi l'enjeu du Brexit, c'est-à-dire que comment est-ce qu'à côté d'une zone fédérée, l'Union européenne, comment est-ce qu'on va éviter ou comment est-ce qu'on va encadrer le risque d'avoir des territoires offshore ou des paradis fiscaux qui vont se former et créer des mouvements où vous allez avoir des entités européennes qui vont vouloir délocaliser. En fait, ce qui se passe déjà en Irlande d'une certaine façon avec certaines entreprises pourrait risquer de se passer aussi en cas de Brexit ou en cas de sortie de l'Union européenne d'autres pays. C'est d'ailleurs certains politiques très libéraux britanniques, c'est ce qu'ils veulent mettre en œuvre. C'est un Singapour sur Tamise, et c'est ce que veulent aussi encadrer et éviter les dirigeants de l'Union européenne. Donc effectivement, ça va créer des précédents sur non seulement la velléité de certains États à vouloir sortir et quitter le bateau européen ou le bateau Grand-Breton au Royaume-Uni, mais même la volonté d'autres États de se dire, bon, voilà, alors pas forcément le Frexit, mais le Czech out avec la République tchèque, le Italie de l'Italie. Enfin, il y a plein de nouvelles nomenclatures qui ont été inventées, et c'est ça qu'il va falloir regarder de très près, c'est ces velléités-là.
Absolument, à faire à suivre.
Affaire à suivre, mais on s'approche. Hein, le couperet va bientôt tomber, Christophe.
Quoi qu'on fasse samedi, il faut annuler tout ce qu'on fait. Et puis, il faut s'apprêter à regarder le Parlement, parce que ça va être incroyable, le Parlement, samedi soir. Vous pouvez regarder sur YouTube, les chaînes sont dispo en live. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.